Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est bon d'être dans sa présence. Il est bon de pouvoir le louer, l'adorer, l'exalter. Jamais nous ne le ferons assez, n'est-ce pas vrai? Jamais, jamais. L'homme a été créé pour adorer son Dieu. Et tant que l'homme ne fait pas ce que Dieu a mis dans son cœur, il est insatisfait. Mais nous avons été créés pour l'aimer, l'adorer. Et par Jésus-Christ, qui est venu d'ici-bas, il nous a montré le chemin pour aller au ciel. Le chemin pour retrouver la communion avec le Dieu trois fois saint. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alléluia. Nous sommes dans cette période de Noël. Et bien sûr, j'aimerais vous apporter un message sur Noël, l'esprit de Noël. Car pour un chrétien, finalement, Noël, c'est un peu tous les jours, Noël. Dans le monde, on fête Noël, mais Jésus, malheureusement, n'a pas beaucoup de place dans les cœurs, n'est-ce pas? Comme il est dit dans les évangiles que dans l'hôtellerie, il n'y avait pas beaucoup de place pour Jésus. Il est dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, pour eux. Moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de place parce que c'était complet, mais c'était pour eux. Je suis persuadé qu'il y avait de la place pour les autres, mais Joseph, Marie, des gens très pauvres, insignifiants, pour des gens comme cela, il n'y a pas de place. Les petits, les pauvres. Les rejeter. Allez-vous-en. Il n'y a pas de place pour vous. Il y en a d'autres là. Il y a un homme d'affaires qui est là. Il y a un grand, un chef qui est là. Venez, venez, vous venez, venez. Il y a de la place pour vous. Venez, entrez. Pour eux, point de place. Le Seigneur veut que pendant ces fêtes de Noël, de fin d'année, il veut prendre toute la place, n'est-ce pas vrai? Et la première place dans nos vies. Que tout ce que nous ferons et dirons soit vraiment sous le regard du Seigneur. Et il faut qu'il prenne toujours plus de place. Avez-vous remarqué quel est l'esprit de Noël? Quand nous lisons tous les récits qui nous parlent de la naissance de Jésus, il y a une atmosphère particulière. Il y a une ambiance particulière. Quelle est cette ambiance? Quel est cet esprit? C'est un esprit d'adoration. C'est un esprit d'adoration. Un esprit d'adoration. Et j'aimerais qu'on voit ensemble tous ceux qui ont exprimé cet esprit d'adoration pendant la venue de Jésus. Et chacun adore le Seigneur pour quelque chose de précis. Il y a en particulier 8 personnes qui ont loué et adoré le Seigneur. Et ils l'ont adoré pour quelque chose de particulier concernant la personne de Jésus et sa venue. Mais avant cela, j'aimerais qu'on lise dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc. Ce que Marie a expérimenté. Évangile de Luc, au chapitre 1er, et versets 46 à 55, il est dit, et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Avez-vous remarqué, il est dit ici, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Marie avait besoin d'un Sauveur. Elle n'était pas parfaite, elle avait besoin d'un Sauveur. Car voici, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles.
Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il y a d'autres personnes, vous allez voir, qui ont loué le Seigneur pour quelque chose de précis. Nous allons commencer par Zacharie. Zacharie, lui, il a loué et adoré Dieu. Pourquoi ? Dans Luc chapitre 1, verset 68, il est dit que, Luc chapitre 1, verset 68, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Voyez-vous, ici, dans la bouche de Zacharie, il y a une louange. Pourquoi ? Parce que Dieu a visité son peuple. Alléluia ! La naissance de Jésus est la visitation divine. Dieu est venu au milieu de nous. Bien souvent, nous disons, Seigneur, visite-nous. Comme s'il ne nous avait jamais visités. Nous devrions plutôt lui dire, Seigneur, merci de ce que tu nous as visités. Les hommes disent, mais où est Dieu ? Ils pensent que Dieu n'est pas venu, mais ce n'est pas vrai. Dieu est venu au milieu de nous. Dieu nous a visités. Et vers la fin de son ministère, Jésus, en parlant de Jérusalem, il aura dit, combien de fois ai-je voulu vous rassembler ? Mais vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visité. Visité. Nous pouvons louer le Seigneur pendant ces moments-là de ce que Dieu nous a visité. De ce que Dieu est venu au milieu de nous. Et vous allez dire, mais comment ça se fait que, puisque Dieu est venu visiter le monde, que tout le monde ne l'a pas cru ? Voyez-vous, Israël a fait une grosse erreur. Et tout le peuple d'Israël, à ce moment-là, ils attendaient la visitation du Messie, mais d'une certaine façon, ils attendaient le Messie non pas comme le Messie souffrant, qui allait venir pour, comme un agneau, donner sa vie sur le bois de la croix pour nous délivrer de nos péchés. Il l'attendait plutôt comme, non pas comme un agneau qui allait venir, mais comme un lion qui devait venir pour les délivrer de la main de l'Empire romain, du joug romain qui était là. Et ils avaient pris dans l'Ancien Testament tous les passages concernant la visitation du Messie, mais pour délivrer Israël de ce joug romain. Mais ils ont ignoré où ils n'ont pas saisi que, avant cela, Jésus devait venir comme un agneau dans l'humilité. Avant de nous détruire d'un ennemi extérieur, Jésus est d'abord venu pour nous détruire d'un ennemi qui était à l'intérieur. Israël ne l'a pas compris. Israël pensait que son ennemi, c'était l'Empire romain, César, qui était là. Et ils attendaient le Messie, oh, si tu pouvais venir pour nous délivrer de ces Romains. Ça fait déjà des années qu'on les voit. Je commence à en avoir assez. Toujours ces soldats romains, ces centurions qui sont là. Mais quand est-ce que tu vas nous délivrer de cet ennemi ? Et Jésus est venu non pas comme il le pensait, mais quand même, selon la parole de Dieu, il est venu d'abord les délivrer de cet ennemi intérieur, du péché. Et ils ne l'ont pas vu. Et n'ont pas connu sa visitation. Mes amis, il y a là une pensée très importante pour nous. Bien souvent, Dieu nous visite. Mais comme ça ne se fait pas comme nous le pensons, nous passons à côté. Comme les pharisiens, les scribes, et tout cela. Avez-vous remarqué ? Hérode, je lisais encore ce matin, Hérode, quand il a su que Jésus était né, il a fait venir les pharisiens, les souverains sacrificateurs, les scribes, il leur a dit... Où doit naître le roi des Juifs ? Et vous savez ce qu'ils ont dit ? À Bethléem, en Judée. Ils savaient qu'il devait naître là-bas, mais ils n'ont rien fait. Parce qu'eux, ils l'attendaient comme un roi qui devait venir libérer le peuple de ce joug romain. Et ces pharisiens, ces scribes n'ont rien fait parce qu'ils l'ont attendu d'une certaine façon et Dieu est venu d'une autre manière. Il en est de même aujourd'hui, mes amis. Si nous voulons expérimenter toujours plus cette visitation divine, Dieu agit différemment de nos pensées. Ses pensées sont au-dessus des nôtres. Ses voix sont au-dessus des nôtres. Nous ne comprenons pas tout. Nous pensons bien souvent que Dieu nous a abandonnés dans telle ou telle circonstance, alors que c'est le contraire, que c'est la preuve qu'il est en train de nous visiter. Nous disons, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais lui, s'il pouvait vous parler, il dirait, mais l'épreuve actuelle est la preuve. L'épreuve est la preuve que je te visite et que je suis avec toi. Mais ça ne se fait pas comme tu le penses. Et très peu ont accepté le Messie à ce moment-là, parce que très peu ont accepté d'être bousculés dans leur conception, n'est-ce pas vrai? Ils étaient certains liés par la tradition, les autres liés par leur pensée, et ils n'étaient pas prêts à changer. Ils attendaient une visitation de Dieu, mais selon leurs idées à eux. Bien souvent, mes amis, nous nous faisons une idée de Dieu. Nous nous faisons une idée des interventions de Dieu dans notre vie. Nous nous faisons une idée aussi de la conduite de Dieu dans notre vie, d'une manière tout à fait différente de ce que lui veut faire. Et après, nous sommes étonnés. Mais comment ça se fait, Seigneur? Tu m'as abandonné. Pourquoi est-ce que je passe par telle épreuve, par telle difficulté, tel chemin? Seigneur, où es-tu? Mais mon enfant, je n'agis pas toujours comme tu le penses. J'ai un plan pour toi. Mes pensées sont au-dessus de les tiennes. Fais-moi confiance. Marie, les bergers, les mages ont fait confiance et ils ont vu la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, si tu fais confiance au Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mais Dieu visite bien souvent d'une manière contraire à ce que nous avons pensé. Bien souvent. Bien souvent. C'est au moment où nous attendons le moins que nous voyons la main de Dieu agir. Dieu n'agit jamais selon nos propres plans. Et nous devons bénir le Seigneur si nos plans sont bousculés. Parce que lui, il a un plan bien meilleur que le nôtre. Alléluia. Zacharie adorer le Seigneur parce qu'il a visité son peuple. Nous pouvons l'adorer, mes amis, et le remercier de ce qu'il nous a visités, et il continue de nous visiter, mais pas comme tu le penses, pas comme je le pense. Et nous devons dire, Seigneur, fais comme tu veux dans ma vie. Fais comme tu veux. Je veux me laisser diriger par toi. Et si nous sommes prêts à dire, Seigneur, bouscule tous mes plans, non pas selon mes idées, vous verrez la visitation divine. Amen. Alléluia. C'est un point important. C'est vraiment cet élan d'adoration qui fait dire « Merci Seigneur de ce que tu nous as visité ». Cela veut dire « Tu fais comme tu veux, tu nous visites comme tu veux, non pas selon mes idées à moi. Je veux te laisser le champ libre. Alléluia. Et je te loue parce que tes voix sont meilleures que les miennes. Et je vous assure, moi je bénis le Seigneur de ce qu'à certains moments dans ma vie, il n'a pas exaucé mes prières ou ma prière dans certains domaines. Je le bénis. Je bénis de ce qu'il m'a dit non dans tel ou tel domaine. Je le bénis, bénis, parce que je ne ferai pas ce que je fais aujourd'hui et je ne serai pas où j'en suis aujourd'hui. Si j'avais insisté dans mes prières pour qu'il fasse comme je le voulais, je serais sur un très mauvais chemin maintenant. Je le bénis de ce qu'il a tout bousculé. Alléluia. Il a visité son peuple, mais il n'agit pas comme tu le veux, comme tu le penses. Il a un plan. Faisons confiance. Alléluia. Et du temps de Jésus, à ce moment-là, très peu ont eu cette disponibilité, cette souplesse. Chacun avait ses plans bien précis. Et ils sont placés à côté du plan de Dieu. Que le Seigneur nous garde de cela, mes amis. Faisons confiance au Seigneur. Même si tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras plus tard. Vous rappelez ce que Jésus a dit à Pierre? Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais plus tard, tu le comprendras. Plus tard, Pierre, tu comprendras. Pierre, tu comprendras. Mais cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Ce n'est pas possible qu'on te crucifie, qu'on te rejette. Ce n'est pas possible. Ce que je fais, tu ne le comprends pas. Mais plus tard, tu le comprendras. Bien des choses, nous le comprendrons plus tard, mes amis. Mais laissez-moi dire une chose. Ce qui nous semble actuellement un abandon, une désertion divine, est justement le contraire. C'est une preuve qu'il nous aime et qu'il est en train de nous visiter, parce qu'il est en train de bousculer nos plans. afin que son plan à lui se réalise. Et sa volonté à lui est toujours bonne, agréable et parfaite. Alléluia! Quelle paix! Quelle louange et quelle adoration lorsque nous pouvons dire « Seigneur, comme tu veux et non comme je veux. » Amen. Il a visité son peuple. Il te visite et il est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Les mages maintenant ont adoré le Seigneur. Pourquoi ? Les mages, au Matthieu chapitre 2, verset 2, ils ont adoré le Seigneur comme le roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Le roi. Voyez-vous, les mages ont adoré le Seigneur pour sa royauté. Matthieu chapitre 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile. En Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Ensuite, au verset 11, il est dit... Ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant dans la maison, avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent, en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, regardez ici. Les mages ont adoré le Seigneur comme le roi. Le roi signifie que, désormais, je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce que Dieu veut. Le roi. Et lorsque nous adorons le Seigneur, nous confessons, nous exaltons sa royauté. Et pourquoi il y avait une telle joie à Noël ? Parce que tous ceux qui avaient mis leur confiance dans le Seigneur exaltaient sa royauté. Ils se considéraient tous comme les sujets du roi, comme les serviteurs du roi. Alléluia! Et lorsqu'on l'adore comme les mages, Jésus en tant que roi, quelle joie il y a de pouvoir dire, Seigneur, tu es le roi de ma vie. Tu prends les rênes de ma vie. Tant que nous dirigeons notre propre vie nous-mêmes, nous serons malheureux, mes amis. Même si au départ il y a quelques joies, ça finira toujours par de la tristesse et des lamentations. Mais si nous livrons notre vie entre les mains de Jésus le roi, alors notre vie prendra une nouvelle dimension. Nous expérimenterons cette joie. Et ils furent saisis d'une très grande joie parce qu'ils étaient conduits par le roi des rois. Amen. Faisons confiance au Seigneur. Noël, c'est cela. Jésus, tu es le roi. Tu n'es pas seulement le petit enfant qui est là, insignifiant, qui ne doit rien nous dire, à qui on peut tout dire. Un petit enfant, on peut tout dire. Mais Jésus est beaucoup plus que cela. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pendant ces fêtes, nous pouvons dire, Seigneur, tu es le roi. Et je t'adore parce que ma vie est entre tes mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avez-vous remarqué ce qu'ils ont amené ? Ils ont amené trois cadeaux. Ils ont amené de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il y a un message, trois messages précis là-dedans. L'or était offert au roi parce qu'on reconnaissait leur autorité et leur seigneurie. L'or, c'était ce symbole-là. Alors donc, ils donnaient de l'or à Jésus. Cela voulait dire qu'ils affirmaient qu'il est le roi des rois et que de ce fait, il a tout pouvoir sur leur vie. Jésus, tu as tout pouvoir sur ma vie. Tout pouvoir. Nous ne voulons qu'avoir tout pouvoir sur l'ennemi. Combien de gens voudraient, « Ah, Seigneur, moi, je veux avoir tout pouvoir sur l'ennemi. » Dieu nous dit, « D'accord, moi, je te donnerai tout pouvoir sur l'ennemi, sur le diable, sur les démons et tout cela. » Mais à condition que j'aie tout pouvoir d'abord sur ta vie. Alléluia. C'est même très dangereux d'exercer une autorité sur le diable quand Dieu, lui, n'a pas toute l'autorité dans notre vie. Très dangereux. La Bible dit qu'on doit d'abord se soumettre à Dieu et ensuite de résister au diable. Résister au diable sans avoir d'abord livré sa vie, c'est quelque chose de dangereux. Mais lorsqu'on a livré sa vie, lorsqu'il a tout pouvoir sur nos vies, alors, il nous donne tout pouvoir sur l'ennemi. Gloire au Seigneur. Il est le roi. Il est le roi des rois. Que le nom du Seigneur, les mages, où est le roi ? Cela veut dire je lui donne tout pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui vous lui avez donné tout pouvoir ? Est-ce que vous lui dites, Seigneur, tu as tout pouvoir dans ma vie ? Prends les rênes de ma vie. Je te fais confiance. Dirige-moi, Seigneur, comme tu veux. Je suis ton serviteur, ton sujet, et tu es le roi.
Alléluia.
Quelle joie, quelle adoration, quelle libération lorsque nous avons cet esprit-là, n'est-ce pas vrai? Troisième adoration maintenant. La troisième adoration vient, troisième témoignage, si vous voulez, vient des anges. Les anges, qu'est-ce qu'ils louèrent? Qu'est-ce qu'ils adorèrent? Ils adorèrent le Sauveur. Le Sauveur. Luc 2, verset 11. À partir du verset 10 déjà, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, car c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Alors ici, ce sont les anges qui louent et adorent Dieu, pourquoi? De ce qu'il a donné un Sauveur. Un Sauveur. Les anges, c'est les anges qui ont eu cette révélation-là. Et il n'y a que les anges qui pouvaient le mieux saisir cette pensée. Et lorsque nous réalisons justement aussi que Noël, c'est avec les anges la proclamation que Jésus est le Sauveur, qu'il vient nous délivrer de notre péché, de notre culpabilité, de notre condamnation qui repose sur nous, quelle libération aussi, quelle joie lorsque nous comprenons cela. Jésus, avec les anges, je veux proclamer que tu es mon Sauveur. Alléluia. Que tu es le Sauveur. Gloire à Dieu. Noël, c'est cela. C'est Dieu qui vient pardonner nos péchés par le sang de Jésus. C'est Dieu qui vient nous délivrer de cet ennemi à l'intérieur. Bien souvent, nous pensons que nos ennemis sont à l'extérieur. Mais Dieu nous dit, le premier ennemi est en toi. C'est ton péché. Et c'est ce péché qu'il faut ôter, sinon le péché te détruira. Là, nous pouvons bien dire, si nous ne détruisons pas le péché nous détruira. C'est quelque chose de grave. Il est le Sauveur, mais Dieu est là pour nous délivrer de cela. Alléluia! Le Sauveur, et il est le seul à pouvoir pardonner nos péchés. Quand je pense que certaines personnes ont le toupet de dire qu'ils peuvent pardonner le péché des gens, eh bien, il y en a même d'autres qui disent que le péché n'existe pas. Oui, il y a deux extrêmes toujours. Les uns disent, moi je peux pardonner tes péchés, et l'autre dit, mais il n'y a pas de péché. Une fois, je lisais dans une méditation des religions orientales, un gourou, vous savez ce qu'il racontait? Il disait que c'est un péché de dire aux gens qu'ils sont pécheurs. C'est un péché de dire qu'ils sont pécheurs! Alors le gourou, lui, bien sûr, pour avoir... Naturellement, s'il disait ça aux gens, il n'aurait pas beaucoup de succès. Mais lui, il a du succès. Comment il fait pour avoir du succès? Il dit, Dieu est en vous. Il sait qu'en flattant les gens, en les gonflant dans leur orgueil, alors qu'ils accepteront ce qu'il dit. Mais ce n'est pas parce qu'il dit que le péché n'existe pas, que le péché n'existe pas. Le péché est une réalité. Il n'y en a qu'un. Qui peut pardonner les péchés, c'est Jésus, n'est-ce pas vrai? Souvenez quand Jésus un jour a pardonné les péchés de ce paralytique, et les pharisiens étaient là, quand Jésus a dit, mon enfant, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens étaient là, on rouspétait, on dit, mais comment? Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul, qui peut? Et Jésus a dit, afin que vous sachiez que j'ai sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi et marche. Jésus a prouvé qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés en guérissant les hommes de leur maladie. Amen. En ressuscitant les morts, en faisant des miracles extraordinaires que nul homme n'a pu faire et ne fera jamais. Et sur les eaux, comme le Seigneur Jésus, qui a ressuscité des morts 4 jours dans la tombe. Où ils sont? C'est ce qu'ils marchent sur les eaux. Et qu'ils donnent à manger à des multitudes avec 5 pains et 2 poissons. Qu'ils ouvrent les yeux des aveugles. Qu'ils fassent courir les paralytiques. Où sont-ils, ceux-là? Jésus a fait tout cela, mes amis, pour nous dire qu'il est le seul, qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu. Et qu'il, s'il fait toutes ces choses, c'est parce qu'il a reçu de Dieu le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia! Les anges l'ont adoré parce qu'il est le Sauveur. Nous devons, pendant ces moments-là, ces fêtes, tout spécialement réaliser qu'il est notre Sauveur et que si nous avons confessé nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Gloire au Seigneur. La Bible dit « Christ est mort pour nos péchés ». Christ a souffert pour nos péchés, lui le juste, pour nous injustes, afin de nous amener à Dieu. Gloire au Seigneur. Son œuvre est parfaite. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est le pur qui est mort pour nous impurs. Il est l'innocent qui est mort pour nous coupables. Mais nous devons réaliser notre culpabilité. Et ça, c'est la chose la plus difficile à admettre. Un jour, je lisais le témoignage de deux hommes. L'un était avocat et l'autre était docteur. Quand le docteur a entendu parler l'évangile, il s'est vite converti. Et il s'est réjoui du Seigneur, du Sauveur. Mais l'avocat, il a mis du temps à accepter Jésus comme son Sauveur. C'est au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et quand ils se sont retrouvés, un jour, l'avocat lui a dit, mais comment ça se fait? Toi, tu as tout de suite accepté le Seigneur, ça a été assez facile, mais pour moi, ça a été très dur. Et le docteur lui a dit cette parole un peu de sagesse. Il a dit, oui, moi je peux t'expliquer. Il dit, je ne comprends pas pourquoi toi c'est vite avec toi. C'est vite avec moi, c'est lent. Le docteur lui a dit, ah, je comprends pourquoi. Je vais t'expliquer. Je crois avoir une réponse. Il dit, voilà. Toi, tu es avocat. Et de par ta profession, tu es toujours en train de te défendre ou de défendre les autres. Par ta profession, tu fais en sorte que les hommes ne reconnaissent pas leur culpabilité, n'est-ce pas vrai? Tu es toujours en train de te défendre toi-même. Alors, tant que tu te défendais toi-même, Dieu ne pouvait pas te justifier ou te sauver. Mais le jour où tu as accepté que tu étais coupable, alors à ce moment-là, Dieu a fait instantanément le miracle. Mais tu as eu de la peine à accepter que tu sois un coupable. Naturellement, de par ta profession avocat, on n'accepte pas facilement sa culpabilité. Il a dit, moi, j'ai tout de suite accepté ma culpabilité, c'était facile. Et c'est pourquoi j'ai tout de suite expérimenté la grâce de Dieu. Si nous réalisons que nous sommes coupables et perdus, Jésus est là, il est le Sauveur. Il nous dit, mon enfant, je suis mort pour toi. Mon sang a coulé pour te purifier. Le plus vite nous acceptons notre culpabilité, le plus vite nous en serons délivrés. Le plus vite. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu chercher à sauver ce qui était perdu. Accepte cela et le plus vite tu expérimentes sa grâce, son amour. Alléluia. Allons un peu plus loin. Les bergers maintenant. Les bergers. Qu'est-ce qu'ils ont expérimenté ce jour-là? Qu'est-ce qu'ils ont loué? Les bergers, Luc 2, 20, il y a quelque chose de particulier avec les bergers aussi. Luc 2, 20, il est dit, « Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu. Pourquoi ? Pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur était annoncé. » Regardez ici, je reviens. Les bergers glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Autrement dit, là, les bergers ont adoré Dieu. Pourquoi ? Pour sa fidélité. Sa fidélité. Dieu avait accompli ses promesses. Ce que les anges avaient dit n'était pas un mensonge. Et tout ce que les anges avaient dit, ils l'ont vérifié. Ils sont allés à Bethléem. Ils sont allés voir l'étoile, tout cela, tout. Tout était conforme selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ils ont adoré, loué le Seigneur pour sa fidélité. Dieu tient promesse. Ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront point, mes amis. Nous louerons et adorerons le Seigneur toujours plus si nous ne doutons pas de sa fidélité. Sa parole est la vérité. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il confirmera sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Dieu est vrai. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne peut pas nous mentir. Ils ont vérifié. Ils ont dit, c'était tout selon ce qu'on a entendu. C'était tout vrai. Mes amis, ne doutons pas des promesses de Dieu et de la parole de Dieu. C'est ce que le diable voudrait faire. Il voudrait nous faire douter des promesses. Même si les choses ne vont pas comme nous le pensons, sa parole demeure éternellement. Laissez-moi dire une chose, Dieu ne se trompe jamais. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas moi-même dans la Bible. Mais cela ne veut pas dire que, parce que je ne comprends pas certaines choses, que la parole de Dieu n'est pas vraie. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. beaucoup de choses qui nous dépassent, mais nous devons rester attachés à cette parole.
Un jour, je lisais ce témoignage d'un pasteur. Un pasteur, c'était un pasteur noir, je crois. Et il racontait ceci. Un jour, il avait été confronté par un professeur. Et ce professeur lui a dit, « Et vous, là, pasteur, comme il était noir, il le méprisait un petit peu. » Alors, il a dit, « Mais vous croyez au miracle de la mer Rouge, là ?» Quand toute l'armée d'Israël a passé par la mer Rouge. Oui, mais bien sûr, je crois. Mais bien sûr, c'est écrit, j'y crois. Mais tu veux me faire croire que toute une armée s'est noyée dans la mer Rouge? Il dit, oui, j'y crois. Mais dis donc, mais tu sais pas exactement ce qui s'est passé. Moi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Eh bien, ce jour-là, la mer Rouge débordait sur ses rives. Et il y avait à peu près 80 cm d'eau. Il y avait 80 cm d'eau. Et alors, bien sûr, dans 80 cm d'eau, toute l'armée pouvait passer. Alors, il a dit, mais vous voyez bien, donc il n'y a pas de miracle. Dans 80 cm d'eau, il n'y a pas de miracle. Ils ont passé comme ça. Alors, quand le professeur a dit cela, le pasteur a dit, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous dites combien, il y avait combien d'eau? 80 cm d'eau, pas plus, il n'y avait pas plus d'eau. Ah bon? Mais c'est merveilleux, 80 cm d'eau, gloire à Dieu, alléluia. Il dit quoi? Pourquoi vous dites alléluia et gloire à Dieu? Mais c'est merveilleux, le miracle est encore plus grand que je ne le pensais, plus grand. C'est pas possible, il n'y a pas de miracle justement. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de miracle, mais le miracle est plus grand. Vous dites combien, il y avait combien d'eau? 80 cm, mais c'est formidable ce que vous dites. C'est pas vrai, il n'y a rien de formidable. Mais expliquez-vous alors! Alors le pasteur lui dit, mais c'est encore plus formidable que je le pensais. La Bible dit que toute l'armée d'Égypte s'est noyée dans 80 cm d'eau. C'est encore un plus grand miracle. L'autre, il a été confondu. Il a eu complètement la bouche fermée. Que toute l'armée d'Égypte se soit noyée dans 80 cm d'eau. Alors il était. Il ne savait plus quoi dire. Il ne savait plus quoi dire. Voyez-vous, quand on veut discuter la Bible, on arrive à dire des bêtises. Et finalement, on est pris soi-même à son propre piège. C'est comme une fois, j'avais lu l'histoire aussi, concernant le garçon, vous savez, qui avait 5 pains, et qui a nourri des milliers de gens. Vous savez ce que certains commentateurs ou détracteurs de la Bible disent? Oh, c'est pas vrai, c'est 5 pains, ces 5 pains-là, c'était des gros pains comme ça. Alors il y en avait 5. Alors bien sûr, avec 5 gros pains, ils pouvaient nourrir la foule. Mais on a dit au gars, mais tu oublies que ces 5 gros pains dont tu parles, c'est un petit garçon qui les a amenés. Ah, alors tout de suite, disais-tu. Vous voyez, quand on veut toujours discuter la Bible, faire dire des choses, alors on est toujours confondu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout était conforme à ce qu'ils avaient vu et entendu. La parole de Dieu est la vérité. Mes amis, celui qui met sa confiance dans cette parole ne sera jamais déçu ni confus, jamais. Vous serez toujours déçu si vous mettez votre confiance dans les hommes, dans les paroles d'hommes. Combien de fois vous avez été déçu, n'est-ce pas? Mais celui qui met sa confiance sur cette parole sera fondé comme sur le rocher des siècles. Alléluia! Vous-même, vous pouvez trembler, mais vous êtes sur un rocher qui ne tremblera jamais. Alléluia! Ça vous arrive à vous trembler, mais si vous êtes sur le rocher qui ne tremble jamais, gloire à Dieu! Mettons notre confiance dans cette parole, mes amis, et nous ne serons jamais déçus. Et ils se réjouirent, les bergers. Gloire à Dieu. C'est vrai, ils ont dit. Tout ce qu'on a dit, tout ce que les anges ont dit, c'était vrai. C'était vrai. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Alléluia. Allons un peu plus loin maintenant. On arrive maintenant au cinquième témoignage. C'est Siméon. Siméon, lui, il glorifiait Dieu de ce que l'évangile était, la venue de Jésus était la lumière du monde. Siméon a glorifié Dieu comme étant la lumière du monde. Luc 2, 31-32, il est dit, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer toutes les nations, éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple. » Regardez ici Siméon, il adore Dieu de ce que le jour de Noël, Jésus était la lumière du monde. Cette,
cette venue de Jésus n'était pas pour quelques-uns en Israël, mais pour que ce message soit connu dans le monde entier. Alléluia! Et Noël, c'est cela, mes amis. Nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes ce que nous avons reçu. Nous devons le dire aux autres. Nous devons le dire aux autres. Et Siméon glorifiait Dieu de ce que ce message était. C'est un message qui était la lumière du monde. La venue de Jésus était la lumière du monde. Et nous devons la porter partout, dans le monde entier. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit lui-même à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus a dit qu'il fallait aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. C'est cela Noël. Nous ne pouvons pas garder cette lumière pour nous. Car le monde est dans les ténèbres. Et plus nous allons de l'avant, plus les ténèbres iront en grandissant dans ce monde. Vous le savez bien. Il n'y a que la lumière qui est Jésus qui peut éclairer ces ténèbres. Dans les ténèbres, il y a toutes sortes de mauvaises œuvres, mauvaises actions, toutes sortes de mauvaises choses qui se passent, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi certains n'aiment pas la lumière, parce que la lumière vient éclairer leurs ténèbres, vient mettre en lumière beaucoup de choses cachées, et ils n'aiment pas cela. Mais pour celui qui aime la vérité, il aime venir à la lumière, même s'il y a des choses qui doivent être reprises en lui, corrigées, il est prêt à se repentir et à marcher dans la lumière. Gloire au Seigneur. C'est un message pour le monde entier. Pour le monde entier. Pour le monde entier. Et Jésus lui-même a dit, cette bonne nouvelle de royaume sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est à toutes les nations. Et c'est alors que viendra la fin. Alléluia. C'est notre responsabilité. En commençant par ici, mais jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Nous, ici, nous devons témoigner. Mais jamais négliger aussi ceux qui sont au bout du monde, mes amis. Quelqu'un a dit un jour, un grand prédicateur a dit, Oswald Smith a dit ceci, « Pourquoi certains entendraient-ils deux fois l'évangile alors que d'autres ne l'ont pas entendu une seule fois ?»« Pourquoi certains entendraient-ils parler deux fois de l'évangile alors que d'autres ne l'ont jamais entendu une fois ?» Et regardez ici, nous sommes comblés. Combien de fois les gens aussi ont entendu l'évangile ? Ont entendu l'évangile et ils ne l'acceptent encore pas. Et bien souvent, on s'entête et on s'obstine avec ces gens-là. Alors que Dieu nous dit, il y en a d'autres dans le bout du monde qui ne l'ont pas encore entendu une fois. S'ils l'entendaient une fois, ils viendraient au Sauveur et seraient sauvés. Alléluia! C'est pourquoi nous avons une responsabilité à l'égard du monde. Nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle pour nous. Pourquoi nous entêter, nous obstiner avec ceux qui n'en veulent pas? Jésus ne forçait jamais la bonne nouvelle, n'est-ce pas vrai? Jamais. Il prêchait la bonne nouvelle, et ceux qui n'en voulaient pas, il allait ailleurs. Il disait, il faut que j'aille dans d'autres villes et dans d'autres villages, apporter la bonne nouvelle. Il était la lumière du monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Noël, c'est une bonne nouvelle pour le monde entier. C'est la lumière qui est venue nous visiter pour chasser l'ombre des ténèbres. Et nous devons apporter cette lumière jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Noël, c'est cela. Cette joie doit être partagée dans le monde entier. Alléluia! Allons un peu plus loin. Élisabeth, maintenant. Élisabeth, la femme de Zacharie, qu'est-ce qu'elle dit? Luc 1, 41-45. Élisabeth, elle, célébrait le bonheur d'avoir cru le message de Dieu. Célébrait le bonheur d'avoir cru le message de Dieu. Luc 1, 41-45. 41-45, à la fin, il est dit ici, au verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Regardez ici. « Heureuse celle qui a cru. » Ici, il y a cette louange et cette adoration qui vient parce qu'on a cru le message. Heureuse celle qui a cru. Alléluia. Lorsque nous croyons tout simplement ce message, quelle joie. Marie, tu as cru. Tu as cru au message de l'ange. Eh bien, tu es heureuse. Et tous ceux qui croient aussi sont heureux. Il n'y a pas qu'elle. Nous sommes tous au même niveau. Alléluia. Heureux celui à qui l'Éternel n'impute plus son péché, il est dit. Heureux à qui la transgression est remise. Alors, Élisabeth célèbre en somme ce bonheur, cette joie d'avoir cru ce message. Alléluia. Tu es heureux. Toi qui crois ce message, tu es béni. Tu es heureux, tu es béni. Alléluia. Quelle joie. Tu as cru. Cela produit et déclenche une joie réelle. Plus tu crois, plus tu seras heureux. Moins tu crois, moins tu seras heureux. Crois. Plus tu crois, plus tu verras cette joie déborder de ton cœur. Alléluia. Mais doute d'une parole de Dieu, doute des promesses de Dieu. Et automatiquement, l'incrédulité vient en toi. Et tu perds toute joie. Amen. Mais quelle heureuse celle qui a cru. Oh, c'est bien que tu aies cru. C'est bien que nous ayons cru. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu, a dit Jésus à Thomas. Il lui a dit, mais toi, tu as cru parce que tu as vu. Mais heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Et qui n'ont pas vu. Vous savez, bien souvent nous disons, ah mais moi si je vivais du temps de Jésus, eh bien moi je l'aurais accepté. Détrompez-vous. On aurait été comme tout le monde. Comme tout le monde. Et heureusement, peut-être qu'on n'est pas né à ce moment-là. Et si vous êtes né maintenant, c'est parce que Dieu a voulu que vous naissiez maintenant. Parce que vous auriez peut-être fait des bêtises à ce moment-là, là-bas. Parce qu'il n'y a aucune garantie que nous l'aurions accepté. Aucune garantie. Parce que combien l'ont accepté à ce moment-là? Combien? Très peu. Uniquement ceux qui avaient le cœur droit. Uniquement ceux qui ont réalisé leur état de perdition devant Dieu. Qui étaient humbles devant Dieu. Et qui ont accepté le message de Dieu pour changer. Et les autres qui étaient orgueilleux, ils sont repartis à vide. Heureuse celle qui a cru. Heureux celui qui a cru. Tu es heureux, mon frère, ma sœur. Alléluia. Tu es heureux. Quelle joie lorsque nous croyons. Marie, maintenant, septième témoignage. Septième témoignage, c'est Marie. Elle, qu'est-ce qu'elle célèbre? Elle célèbre la miséricorde de Dieu pour ceux qui le craignent. Luc 1,50. Marie, maintenant, célèbre la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu pour ceux qui le craignent. Luc 1,50. Qu'est-ce qu'il est dit? Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et il semble que Marie a expérimenté justement la grâce de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit, « Toi, Marie, à qui une grâce a été faite ?» Bien souvent, on nous dit que Marie, pleine de grâce, c'est une erreur, la Bible ne dit pas pleine de grâce. Il est dit qu'il lui a été fait une grâce. Elle a réalisé que si elle a été l'instrument du Seigneur pour que Dieu, par son esprit, vienne en elle, c'était une grâce. Ce n'était surtout pas une question de mérite. Nous, on peut penser, « Oh Marie, que de mérite a-t-elle ?» Oh, on pourrait lui dire, « Mais Marie, vraiment, si tu as enfanté le Seigneur, c'est que tu le méritais. Détrompez-vous !» Si elle avait cru cela, jamais le Seigneur ne l'aurait utilisé pour enfanter son fils. Jamais, jamais. C'est au contraire. C'est parce qu'elle réalisait son néant. Et que si Dieu devait la visiter, c'était par grâce. Elle n'avait aucun mérite. Alléluia. Et Noël, c'est cela. L'esprit de Noël, c'est un esprit de louange qui glorifie la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mes amis, tout ce que nous avons, toutes les visitations divines que nous pouvons avoir, ce sont des effets de la grâce de Dieu. Ne pense jamais que parce que Dieu t'a béni, ou t'a guéri, ou t'a visité, que tu le mérites. Jamais. Ne pense jamais cela. Et si tu penses cela, la main de Dieu se retirera de toi. Et tu n'expérimenteras plus sa bénédiction. La bénédiction de Dieu est sur celui qui réalise la grandeur de la miséricorde de Dieu. La miséricorde. Quelqu'un a dit un jour, la miséricorde, c'est Dieu, la corde que Dieu tend à notre misère. Miséricorde, c'est la corde que Dieu tend à notre misère pour nous sauver, pour nous délivrer. Alléluia, il nous jette une corde pour venir nous délivrer dans notre misère. C'est cela la miséricorde. C'est Dieu qui nous jette cette corde. Alléluia, parce que nous sommes dans la misère. Mes amis, si nous réalisons cela, oh combien nous serons heureux. Seigneur, tout ce que j'ai, c'est par grâce, je ne mérite pas. Oh, je te bénis. Paul avait compris cela. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et Paul disait, Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alléluia! La grâce. Lui qui était un blasphémateur. Lui qui était un rebelle. Lui qui s'est opposé à Dieu. Lui qui a fait mourir des chrétiens. Comment pour Dieu pouvait-il l'utiliser? Il n'y avait certainement pas de mérite en lui, n'est-ce pas vrai? Et quand Dieu, oui, et quand Dieu l'a visité, il a réalisé que c'était tout grâce. Il a dit, comment moi, un blasphémateur, un moqueur, Dieu a pu m'utiliser? Comment a-t-il fait la grâce de venir sur mon chemin à Damas pour m'utiliser? Quelle grâce, quel amour! Et Marie loue la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu loues sa miséricorde? Loue-le pendant ces fêtes de Noël et pendant toute l'année. Loue sa miséricorde. Tout est grâce. Plus tu réalises sa grâce dans ta vie, plus il te fera grâce encore. Amen. Alléluia. Tout est grâce, mes amis. Et sa grâce n'est pas vaine. Sa grâce n'est pas épuisée. Il veut te bénir et il te bénira encore. Et je termine. Huitièmement, le huitième témoignage, c'est Anne. Anne, elle célébrait la délivrance de Jérusalem. Voyez-vous, il y a un autre aspect. Luc 2, 38, maintenant, il est dit ceci. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, elle priait, parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors, vous voyez ici le message de Noël. Elle louait le Seigneur pour la délivrance de Jérusalem. La délivrance, non pas de l'oppresseur physique romain, mais de l'oppression spirituelle. Alléluia. Et Noël, c'est cela. C'est Dieu qui nous a délivrés. De quoi? Il nous a délivrés premièrement de l'enfer. De l'enfer. Des griffes de la perdition éternelle. De l'enfer, mes amis. Ça, c'est une délivrance, une véritable délivrance. Personne ne pouvait nous sortir de l'enfer. Il n'y a que Jésus qui pouvait le faire par son sacrifice. Nous sommes délivrés de l'enfer. En somme, nous sommes délivrés aussi de la main du diable, des griffes du diable. Qui pouvait nous délivrer de cet esclavage de Satan? Personne que Jésus, qu'un plus fort que le diable. Et le plus fort que le diable, c'était Jésus. Alléluia! La parole de Dieu dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu! Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le voleur, c'est le diable. Mais moi, Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Délivrance de l'enfer. Délivrance de l'oppression du diable, du joug du diable. Délivrance aussi de la crainte. La crainte. Il est venu pour nous délivrer de cette crainte de la mort, du jugement. Mes amis, la crainte de l'éternité. Il y a trois craintes dans le cœur de l'homme. La crainte de la mort, la crainte du jugement et la crainte de l'éternité. Tout homme a ses trois craintes, même si on ne veut pas l'admettre. La mort, c'est un épouvantement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Et le jugement, on sait qu'on a mal fait. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? Et la crainte de l'éternité. Où passerai-je l'éternité? Où vas-tu passer l'éternité? Soit avec Dieu, soit avec le diable, en enfer. Mais Noël, c'est la délivrance. Dieu vient nous délivrer de cette crainte. Car la crainte paralyse des multitudes d'hommes. La crainte de l'homme aussi. Combien de gens sont liés par la crainte des hommes? Ils ont peur. Ne crains jamais l'homme. La crainte de l'homme tend un piège, nous dit la Bible. Mais celui qui craint l'Éternel sera protégé. Amen. Il y a aussi la crainte des traditions humaines. La crainte des traditions religieuses. N'aie pas peur d'abandonner tes traditions religieuses. Sois courageux et accepte de suivre le Seigneur et d'obéir à sa parole. Amen. Alléluia. Mes amis, voilà Noël, et je termine maintenant. C'était donc là. Voyez-vous, toutes ces personnes ont apporté une ambiance extraordinaire, hein, une louange, une célébration, une jubilation, une adoration pour tout ce que Jésus est venu apporter. Que le Seigneur nous donne ainsi de passer de bonnes fêtes. Et Noël, ce n'est pas seulement un jour pour les chrétiens, mais c'est tous les jours de l'année. Réalisons ces bénédictions. Zacharie, Dieu a visité son peuple. Mes amis, chaque jour, Dieu nous visite. Il nous visite, il est là, il ne nous a jamais abandonnés. Alors avec les mages, couronnons Jésus comme le roi. Avec les anges, réalisons que Jésus nous a sauvés de notre péché. Avec les bergers, réalisons que Dieu est fidèle, sa parole est la vérité. Avec Siméon, apportons cette lumière jusqu'aux extrémités du monde. Avec Élisabeth, le bonheur, jouissons de ce bonheur d'avoir cru dans l'Évangile. Avec Marie, bénissons sa miséricorde, sa grâce. Tout est grâce. Je te remercie, Seigneur. Tu m'as donné, tu m'as tant béni. C'est par grâce, Seigneur. C'est par grâce. Et quand nous réalisons cela, nous tombons à ses pieds. Nous disons merci, Seigneur. Je ne mérite rien, mais tout est grâce. Et avec Anne, célébrons la délivrance de Jérusalem. Seigneur, tu m'as délivré de la mort, de l'enfer, de mon péché, de la crainte des hommes. Je suis un homme libre. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Que Dieu vous bénisse et bénisse chacun d'entre nous. Amen. Ô Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps de visitation qu'est Noël, pour cet esprit de louange et d'adoration que toutes ces premières personnes ont expérimenté parce qu'ils ont saisi, elles ont saisi quelque chose, elles ont vu quelque chose. Ô Seigneur, ouvre-nous aussi les yeux afin qu'avec eux, nous puissions nous joindre au chant des anges pour célébrer le nom de notre Dieu et crier gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'être de bonne volonté, de nous soumettre, de te faire confiance et de marcher avec toi et d'être fidèle jusqu'à la mort. Ô, merci, de tout notre cœur, nous t'aimons et nous t'adorons. Jésus, notre Sauveur, à toi seul soit la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen.